Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Septième partie. Le gouvernement américain avait engagé un combat contre les États esclavagistes en 1861, non pour mettre fin à l'esclavage, mais pour conserver intact l'immense territoire national avec son marché et ses ressources. Néanmoins, la victoire nécessitait un esprit de croisade dont la dynamique avait fait émerger de nouvelles forces dans le champ politique national. Davantage de Noirs fermement décidés à donner du sens à leur liberté, davantage de Blancs, que ce soit les administrateurs du bureau aux affranchis, les professeurs dans les Sea Islands ou les Carpetbaggers, ces arrivistes et aventuriers venus le plus souvent du Nord. En un cocktail diversement dosé d'humanitarisme et d'ambition personnelle qui se sentait concerné par l'égalité des races. Quant au parti républicain, il souhaitait garder le contrôle du gouvernement national et avait l'intention, pour y parvenir, de se servir des votes des Noirs du Sud. Les milieux d'affaires nordistes, jugeant la politique du parti républicain favorable à leurs intérêts, le soutinrent aussi un certain temps. Le résultat fut cette courte période après la guerre de sécession, au cours de laquelle les Noirs votèrent, envoyèrent des représentants Noirs dans les chambres des États et au Congrès, et introduisirent dans le Sud un système d'éducation gratuite et racialement mixte. Un cadre légal s'élaborait également. Le 13e amendement interdisait l'esclavage. Le 14e amendement annulait la décision Dred Scott, datant d'avant la guerre, en déclarant que « tous les individus nés ou naturalisés aux États-Unis en seraient citoyens ». Cet amendement semblait aller également vers un approfondissement de l'égalité raciale et limiter de façon drastique les droits des États. Aucun État ne peut voter ou appliquer une loi qui limiterait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis. Aucun État ne peut priver un individu de la vie, de la liberté ou de ses biens sans un procès légal, ni dénier à quelque personne que ce soit placée sous sa juridiction une équitable protection juridique. Le 15e amendement précisait de son côté que le droit des citoyens des États-Unis à voter ne peut être refusé ou limité par les États-Unis ni par aucun autre État sur des critères de race, de couleur ou pour cause de servitude antérieure. À la fin des années 1860 et au début des années 1870, le Congrès vota un certain nombre de lois qui participaient du même esprit, les lois pénalisant les tentatives de priver les Noirs de leurs droits, exigeant de l'administration fédérale de respecter ces droits, autorisant les Noirs à contracter et à acheter des biens sans discrimination. En 1875, un décret sur les droits civiques interdit l'exclusion des Noirs des hôtels, théâtres, trains et autres espaces publics. Avec ces lois, avec la protection de l'armée de l'Union dans le Sud et l'aide d'une armée civile de fonctionnaires du bureau des affranchis, la situation des Noirs du Sud fit un véritable bond en avant. Ils votèrent et constituèrent des organisations politiques qui s'exprimaient avec conviction sur les questions les plus essentielles pour eux. D'abord vice-président, puis président à l'issue de la guerre après l'assassinat de Lincoln, Andrew Johnson avait toujours constitué un frein à cette évolution. Il opposa plusieurs fois son veto à certains décrets favorables aux Noirs et accepta le retour des États confédérés dans l'Union sans exiger en contrepartie de mesures garantissant l'égalité des Noirs. Pendant sa présidence, ces États sudistes instituèrent des codes noirs qui transformaient les esclaves affranchis en véritables serfs, continuant de travailler sur les plantations. En 1865, par exemple, l'État du Mississippi interdit aux affranchis de louer ou de prendre des fermes à bail. On s'arrangea de surcroît pour les faire travailler avec des contrats qu'ils ne pouvaient rompre unilatéralement sans risquer la prison ou une lourde amende. Les tribunaux pouvaient également contraindre un jeune noir de moins de 18 ans, orphelin ou dont les parents étaient pauvres, à exercer un travail obligatoire qualifié d'apprentissage avec tout un système de punition pour les fugitifs. Andrew Johnson s'opposait continuellement aux sénateurs et aux membres du Congrès qui, soit pour de simples raisons de justice, soit par calcul politique, soutenaient l'égalité des droits et le droit de vote pour les affranchis. En 1868, profitant du fait qu'il avait violé un règlement mineur, ses membres du Congrès lancèrent une procédure d'impeachment contre Johnson. Le Sénat réunit à une voix près la totalité des deux tiers des votes nécessaires au renvoi du président. Le républicain Ulysses Grant fut finalement élu cette année-là, président des États-Unis, en l'emportant de 300 000 voix. 700 000 Noirs avaient pris part au vote. Johnson n'y faisant plus obstacle, les États du Sud ne furent admis à revenir au sein de l'Union qu'après avoir approuvé les nouveaux amendements constitutionnels. Dans toutes les luttes pour l'égalité des droits, les femmes insistent sur leur situation particulière. Lors d'un meeting de l'Association américaine pour l'égalité des droits, Sojourner Truth déclarait: on fait pas mal de bruit autour de l'idée que les hommes noirs puissent jouir de leurs droits, mais on n'entend pas un mot sur les femmes de couleur. Et si les hommes de couleur obtiennent ces droits et pas leurs femmes, vous verrez que les hommes de couleur deviendront les maîtres des femmes. Et rien n'aura changé. C'est pourquoi je suis pour qu'on en parle maintenant, qu'il y a toute cette agitation, parce que si nous attendons que tout ça se calme, nous aurons bien du mal à faire redémarrer les discussions. J'ai à peu près 80 ans et je ne vais pas tarder à quitter cette terre. J'ai été 40 ans esclave et 40 ans libre. J'aurais voulu rester encore 40 ans pour voir l'égalité des droits pour tous. J'imagine que si je continue à respirer, c'est parce qu'il me reste encore quelque chose à accomplir. Je dois aider à briser les chaînes. J'ai déjà fait pas mal de travail en ce sens, autant qu'un homme en tout cas. Mais je n'en ai pas été récompensé pour autant. Je travaillais dans les champs, à lier les gerbes en plus de m'occuper de mes enfants au berceau. Des hommes qui n'en faisaient pas plus étaient payés deux fois plus que moi. J'imagine que je suis à peu près la seule femme noire qui circule ainsi pour s'exprimer sur les droits des femmes noires. Je veux continuer à en débattre maintenant que la glace est en train de craquer. Les amendements constitutionnels et les lois sur l'égalité raciale avaient été votées. Les hommes noirs commençaient à voter et à occuper certains postes. Néanmoins, tant qu'ils restaient dépendants des blancs riches pour leur travail et les questions de toute première nécessité, leur vote pouvait être acheté ou influencé par le chantage ou la violence. C'est ainsi que les lois sur l'égalité des traitements furent totalement vidées de leur sens. Tant que les armées de l'Union, soldats noirs compris, stationnaire dans le Sud, le processus réactionnaire fut reporté. Pourtant, l'équilibre des forces militaires commença à se modifier. L'oligarchie blanche du Sud profita de son pouvoir économique pour organiser le Ku Klux Klan et d'autres groupes terroristes du même type. Les politiciens du Nord évaluèrent les avantages respectifs d'un soutien politique accordé à de pauvres noirs, dont le vote et la participation aux affaires n'étaient garantis que par la force, et d'une situation stabilisée au Sud dans laquelle une suprématie blanche se réinstaurait tout en acceptant la domination républicaine et le nouvel ordre économique. Le temps viendrait bientôt où les noirs subiraient à nouveau des conditions très proches de l'esclavage. La violence blanche éclata presque immédiatement après la fin de la guerre. À Memphis, au Tennessee, en mai 1866, au cours d'un raid meurtrier, des Blancs assassinèrent 46 Noirs, pour la plupart vétérans de l'armée nordiste, ainsi que deux sympathisants blancs. 5 femmes furent violées. 19 habitations, 12 écoles et 4 églises furent incendiées. À la Nouvelle-Orléans, à l'été 1866, une autre émeute contre les Noirs fit 35 victimes noires et 3 victimes blanches. Les violences s'accrurent à la fin des années 1860 et au début des années 70. Le Ku Klux Klan se livrait à des raids, des lynchages, des agressions physiques et des incendies. Dans le seul Kentucky, entre 1867 et 71, les archives enregistrent 116 actes de violence, dont voici une sélection. 1. Une foule pénètre dans Harrisburg, comté du Mercer, pour sortir de prison un certain Robert Stone, 14 novembre 1867. 5. Sam Davis est pendu par la foule à Harrisburg, 28 mai 1868. 6. William Pierce, pendu par la foule à Christian, 12 juillet 1868. 7. George Roger, pendu par la foule à Bradfordville, dans le comté de Martin, 11 juillet 1868. 10. Silas Woodford, âgé de 60 ans, est sévèrement battu par un groupe d'hommes masqués. 109. Un nègre tué par le Ku Klux Klan dans le comté de High, 14 janvier 1871. En 1868, un forgeron noir nommé Charles Caldwell, né esclave, sénateur du Mississippi, et qualifié de « nègre notoire et fauteur de troubles par les Blancs », fut la cible d'un attentat commis par le fils d'un juge blanc du Mississippi. Caldwell se défendit et tua son agresseur. Jugé par un jury intégralement composé de Blancs, il assuma sa propre défense et fut acquitté. Il est le premier noir à avoir tué un blanc qui soit jamais ressorti libre du tribunal. Mais à Noël, en 1875, Caldwell fut assassiné par un groupe de blancs, signe que les vieux dirigeants blancs reprenaient le pouvoir au Mississippi, comme partout ailleurs dans le Sud. En 1863, un affranchi des Sea Islands dicta une lettre qu'il envoya à un de ses anciens professeurs installés à Philadelphie. Mon cher monsieur Young, dites, mon monsieur, à Lincoln, qu'on veut de la terre. De cette terre qui est riche de notre sueur, de notre front et du sang de notre dos. On pourrait acheter ce qu'on veut, mais ils font les lots trop gros. Et les autres, ils passent devant. C'est monsieur Lincoln lui-même qui l'a dit, qu'on dise ce qu'on veut et qu'on les prenne et qu'on s'installe et qu'il s'arrangerait pour qu'on les ait, chaque homme, ses 10 ou 20 acres. On était content aussi. Alors on s'est inscrit, mais au moment de s'installer, ces délégués, ils vendent toute la meilleure terre à leurs copains blancs. Qu'est-ce qu'il fait, Lincoln? Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.